Je ne veux pas créer de polémique ici, hein,
non,
Diana,
hein,
mais
non,
on peut en parler aussi.
Les a preguntado cuáles son diferencias y un poco lo, competencias entre Francia y España, y ha nombrado las legumbres y la fruta, porque en España las podemos producir mucho más baratas, claro, es más fácil el sol, la climatología, y, pero que luego, claro, cuando se exportan de España y las importan los franceses, el precio aumenta mucho, es lo que ha aumentado.
Voilà, on peut maintenant peut-être parler de, on en a parlé, hein, de diversification finalement, avec donc finalement on a présenté l'agriculture française, sartoise en l'occurrence, et celle d'Espagne. On a parlé aussi des aides européennes. Vous les jeunes français, quelle vision vous avez sur la politique agricole commune et la politique, voilà, votre, je dirais. Les agriculteurs sartois, français, quel rapport ils ont avec Bruxelles, avec tous les textes qui se font en Europe, et voilà, vous avez un avis là-dessus? Anthony.
Bah, c'est un petit peu le système de la PAC, bon, que ça soit espagnol ou français, c'est comme c'est l'Europe. Nous sommes tous dans le même cas. Après, la PAC qui est redistribuée par État, mais sans la PAC, aujourd'hui, un agriculteur, en tout cas en France, enfin, après en Espagne, je ne sais pas, mais s'il n'y aurait plus de primes pour un agriculteur aujourd'hui, il y aurait sûrement beaucoup, beaucoup moins d'agriculteurs. Mmh. Il y a des agriculteurs, en fin de compte, bon, il y a énormément d'agriculteurs qui vivent avec la prime. En fin de compte, sans prime, ils font zéro résultat, zéro.
Le ha preguntado, bueno, como hemos estado haciendo la comparativa de España a Francia, se ha hecho la pregunta sobre la visión de los jóvenes franceses y de la gente en Francia sobre la política agraria común. Entonces, no, que, pues lo mismo, ellos han comentado que, pues, en este caso, todos los países estamos, al ser estar en la Unión Europea, tenemos ayudas de la PAC, es decir, sea Francia, sea España, que es por estados. En este caso, en notre cas, la PAC se pas seulement pour l'État, c'est pour les communautés, c'est pour les différentes communautés. Par exemple, les Pays-Bas, la gestion sont gestiones c'est différent que l'Andalousie, que différentes régions en l'Espagne. Gestion,
l'aide n'est pas forcément centralisée sur le pays,
non,
mais elle est
partagée,
enfin, elle est distribuée selon,
les
niveaux, en fait,
c'est différent,
les niveaux agricoles des régions.
Mm-hmm. Ouais. Bueno, pues les he comentado que en España no es solo por el Estado, como es en Francia, como otros países, en España es por cada comunidad autónoma gestiona todas esas ayudas. Siempre con las mismas líneas, pero lo gestiona a su modo. Entonces era un poco, le ha comentado Anthony, que muchos agricultores en Francia no podrían vivir sin esas ayudas. Entonces era, pues, también para saber nuestra visión. Ha preguntado qué pasaría en España y en el País Vasco sin las ayudas de la PAC.
Voilà, donc les agriculteurs européens sont plus ou moins dépendants, en fait, de la PAC, et Benjamin l'a dit, certains en France sont complètement dépendants, puisque sans aide, ils n'auraient rien, finalement. Alors la PAC, c'est compliqué, quel avenir, justement, de cette PAC? Quelqu'un veut en parler? Elle se terminait théoriquement en 2013, là. Elle va être renégociée en 2015, ça a été reporté. Les aides vont se poursuivre?
Bah, ça on sait pas, en fait. Souvent c'est négocié à Bruxelles. Donc en France, on a... Enfin, Bruxelles, il y a des lobbies. Donc en France, c'est beaucoup de céréaliers donc, qui font que de la culture qui sont à Bruxelles et qui négocient. Et c'est pour ça, justement, en France, qu'il y a un problème de répartition de ces aides. Du coup, parce qu'ils négocient pour eux avant les autres, quoi. Et du coup, aujourd'hui en France, c'est 20% des agriculteurs qui touchent 80% des aides. Et du coup, c'est ça qui qui veut être rétabli et voilà. S'il y a une poursuite des aides, c'est là-dessus qu'ils veulent travailler. Quoi.
Et c'est notamment l'élevage
qui veut s'impliquer,
qui est touché. Jérémy, donc ici élève en terminale.
Voilà, terminale L. Donc j'ai pas beaucoup de rapport avec l'agriculture, mais il y a juste une question que j'aimerais savoir si tu pourrais répondre. C'est comment ça se fait que ce soit vraiment que des céréaliers qui soient représentatifs, qui soient représentés en fait, et que les autres agriculteurs, comme vous pouvez voir avec la volaille ou le porc ou le où les vaches puissent pas être représentées dans ces conseils.
Bah, parce que les céréaliers, ils pèsent un poids financier finalement qui est supérieur à celui de l'élevage. Mmh. Et donc du coup, ont un poids plus important à Bruxelles, quoi.
D'accord, ok. Donc c'est juste par rapport au poids économique et vous n'avez pas le droit par rapport au poids de votre production et de.
C'est pas le droit, c'est qu'on peut. C'est eux qui négocient pour nous, mais ils vont prendre d'abord leur part avant de. Mmh. Ah, c'est encore une polémique, mais c'est un peu d'accord, ça qui se passe, quoi.
Alors, on va passer à un autre sujet maintenant parce que c'est vrai que c'est compliqué, même si on a compris que
ça
ceux qui pèsent le plus lourd finalement gagnent le plus, quoi. C'est ça qu'on peut dire.
Solamente así un poquito porque me ha costado un poquito entenderlo, pero así por encima están hablando de los asalariados. Agrarios, el hecho, pues lo que hemos comentado antes de la importancia de la PAC en los salarios y que creo que era el 80% de las ayudas va al 20% de...
Se hablaba sobre todo que los agricultores de cereal son los que van a Bruselas a conseguir las ayudas para todos los agricultores. Pero al final lo que hacen es sobre todo pues intentar llevarse ellos esas ayudas y se crea sobre todo esa diferencia que, como has dicho, el 20% de los agricultores se llevan el 80% de las ayudas.
Voilà, donc tu peux traduire, Diana?
Oui. Je peux traduire de ça, non, c'est la traduction, elle a commencé.
Traduction, d'accord, ouais. D'accord.
Parce qu'elle parlait aussi, on peut
voilà, dire. Ouais, bien sûr, il faut faire parler aussi, parce qu'il y en a qui n'ont pas parlé, donc on va aller. Vélène notamment, David et Sonia. On va parler de développement durable maintenant, d'environnement. Mm-hmm. C'est un sujet qui vous intéresse, vous urbain qui vivez à la ville et qui n'êtes pas forcément agriculteur, et vous aussi professionnel qui devez utiliser en fait des produits qui ne sont pas forcément très bons pour la santé. On va demander à Kevin s'il a un avis là-dessus. Sur le développement durable, est-ce que c'est une notion qui est enseignée à la MFR de Bernec et qui prend de plus en plus de place?
Non, on n'a pas spécialement évoqué ça, mais par rapport à des sujets traités comme les filières qu'on a pu faire sur avec mon groupe sur la volaille, on a pu constater que c'était très important par rapport aux nouveaux projets qu'ils ont avec les parcs éoliens et puis tout ce qui est panneaux photovoltaïques et tout ça. Donc par rapport à ça, on peut comprendre que ça a de l'importance au niveau de l'agriculture.
Pues nada, la pregunta ahora, el tema se ha centrado sobre todo en el desarrollo sostenible y el medio ambiente en la agricultura. Entonces le ha preguntado un poco a Kevin en el primer momento qué es lo que opina para él dentro del tipo de explotación en el que está trabajando, que era de aves, de corral, sí, de aves, ha dicho que se han dado cuenta que es muy importante y ellos, por ejemplo, están trabajando en un nuevo proyecto, por ejemplo, con placas fotovoltaicas.
David, ¿est-ce qu'on peut poser une question ou Vélène?
Sonia.
En España se está intentando aplicar energías renovables en todos los sentidos, tanto en ciudad como en medio rural. No tengo datos, pero hubo una gran polémica porque muchos terrenos en los que se cultivaban cereal o ciertos cultivos agrícolas se llenaron de placas solares precisamente por las ayudas europeas que les daban por instalar energías renovables. Entonces ese terreno que antes se utilizaba para cultivo ahora mismo está lleno de energías renovables que que bueno, que no estoy en contra de las energías renovables, pero están ocupando un terreno que ahora mismo, debido al éxodo rural de la gente que se va de los pueblos a las ciudades, pues está desapareciendo un poco la figura de agricultor o de ganadero.
Je hoche de la tête, mais je n'ai rien compris du tout. Diana, tu veux la traduire?
Il a dit que maintenant l'énergie renouvelable c'est très important en Espagne, mais il y a eu un peu une grande discussion, un grand problème parce que des terrains de céréales et antiques et cultures de céréales, ils sont abandonnés. Avec les subventions, avec les aides de l'Europe, et ils sont transformés en grandes plaques solaires et photovoltaïques. Donc, il s'est transformé toutes les cultures dans les productions d'énergie. La production d'énergie, c'est bon, mais finalement, la production basique de l'agriculture s'est transformée en ça. Et maintenant, ce type d'aider, ça finit. Donc, c'est un problème.
En fait, la production d'énergie est plus rentable que,
avec les CD.
Que la production de céréales.
Oui. Oui, mais maintenant les CD aussi, c'est fini. Donc les productions avec l'Espagne, c'est la grande crise. Maintenant les grandes entreprises achètent l'énergie très pas chère. Donc maintenant c'est pas rentable. Donc tu as une grande culture d'énergie, mais pas production céréaliste et rien. C'est un grand problème.
Je parlais en introduction justement de ce rapport entre les producteurs, les agriculteurs et les consommateurs. Qu'attendent justement les consommateurs? Je suppose qu'ils attendent justement qu'on leur propose des produits sains. Le dernier scandale des lasagnes au cheval donc a montré qu'il y avait, un problème hein, de ce point de vue-là, notamment entre la confiance qu'on pouvait donner aux producteurs de viande et aux transformateurs, et puis les consommateurs qui attendent évidemment qui attendent des bonnes choses à manger. Est-ce que je me tourne maintenant vers les Français, est-ce que c'est un problème ça vis-à-vis des consommateurs? On a parlé des éoliennes et des panneaux photovoltaïques notamment développés par les volailles de Loué donc en Sarthe qui donnent je dirais une bonne image finalement en plus que ce sont des volailles élevées en liberté etc. dans un contexte non intensif sur le sujet par exemple de l'utilisation des intrants. On peut dire qu'il y a eu des progrès aussi de fait, même, je dirais, dans l'agriculture conventionnelle, non biologique. Benjamin.
Ah, ce qui est aujourd'hui, oui, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits. D'une part, parce que il y a 30 ou 40 ans, les agriculteurs mettaient des produits parce qu'ils connaissaient pas leurs effets sur la santé humaine, on les connaissait pas, mettaient des produits à forte dose, ça donnait du résultat, mais par la suite ça a détruit il y a eu beaucoup dans le Rhône par exemple, il y a eu beaucoup d'arboriculteurs qui ont des cancers aujourd'hui avec l'utilisation de ces produits là. Et du coup aujourd'hui il y a des réglementations très très strictes là-dessus. Voilà, faut noter tout ce qui est mis dans chaque champ, avec toutes les doses, à quelle journée ça a été fait. Enfin, donc voilà, aujourd'hui la réglementation est très très stricte là-dessus et du coup on limite la pollution. Voilà, on produit, on met des intrants mais sans surplus, parce que le surplus va dans les sols, va dans l'eau et on les retrouve toujours quoi.
Est-ce que
les ha preguntado, ha hecho una pequeña introducción sobre la concienciación y la confianza que tenemos el consumidor realmente de lo que compramos, de lo que comemos y realmente sabemos de dónde viene y lo que es la trazabilidad. Y ha hecho un pequeño comentario a pues la polémica que ha habido con la producción de carne con el caballo. Entonces, han estado comentando que sí, que durante 30 o 40 años ha habido un ha habido problemas, sobre todo de que ha habido, han utilizado productos que no sabían muy bien las consecuencias, que no se controlaba tanto. Pero es que es verdad que en la actualidad se es mucho más consciente, los agricultores, ganaderos, son mucho más conscientes y que el control es mucho más estricto, que hay mucho más control y que hay una limitación sobre la producción y sobre todos estos productos a utilizar.
Est-ce que quelqu'un du côté de l'Espagne veut s'exprimer là-dessus et dire justement s'il y a eu pression des consommateurs dans votre pays pour justement faire baisser le niveau des pesticides, des herbicides, des phytocides, etc. Pour empêcher les maladies.
Que si, tanto en el País Vasco como en España, si realmente el consumidor, los consumidores en nuestros países son hacen una presión o son realmente conscientes y están pidiendo que los niveles de fertilizantes, pesticida sean menores, que realmente saber lo que estamos comiendo, si están abogando por una producción más ecológica.
Alors, Belén, Belén, vas-y.
Sí, yo opino que la gente sí que se preocupa por estos temas, sin embargo, con todo el tema de la crisis y tal, yo creo que se despreocupa mucho más. Antes era como mucho más importante, pero ahora es un poco más, pues si es barato y más o menos tiro para adelante con eso, pues no me importa. Es algo que como que en una mala situación te importa menos. También es verdad que yo pienso que la gente que tiene una renta mayor siempre se preocupa por buscar una calidad mucho mayor.
También es cierto, quiero añadir, Belén, que muchas veces vamos a comprar a los supermercados y no sabemos el origen del producto, pero no lo sabemos muchas veces porque no nos dan esa información nunca. O sea, por mucho que busques, hay productos que no sabes de dónde van a venir. Por ejemplo, las manzanas que compres en la frutería de un centro comercial gigante, a lo mejor no, es imposible saber su origen. Entonces yo creo que es una dificultad que tenemos los consumidores en ese sentido, o sea, que nos podemos comer cualquier
y que
cosa.
A muchas veces a lo mejor si vas a un supermercado o algo que tenga cierto renombre, ya das por sentado que el producto va a ser bueno y no tiene por qué.
Belén ha dicho que en la España los consumidores sont préoccupés, ils sont conscients de l'importance de la qualité de l'origine de les produits, mais maintenant avec les crises, avec la situation, beaucoup de familles, beaucoup de gens pensent que l'important c'est les trucs pas chers. Donc ça c'est la difficulté parce que tout le monde sait que les produits de qualité ils sont plus chers. Donc, c'est le problème. Après, Sonia a expliqué que beaucoup de fois, quand tu vas à un supermarché très grand et les origines des produits, tu ne connais pas. C'est difficile de connaître vraiment où ces produits sont produits.
C'est produit, oui.
Et par exemple, les pommes ou... Normalement, dit les pays.
Un problème de traçabilité,
oui,
d'étiquetage.
Oui. Ah, c'est ça. C'est le problème de la traçabilité de l'étiquetado. Que normalement, c'est seulement les pays. Ça ne connaît pas l'information, comment c'est fabriqué ou c'est faire les produits.
Et là, justement, l'Europe devrait jouer un rôle important.
Oui. Essaye l'Europe, essaye, mais c'est difficile parce que chaque pays, chaque produit.
Je m'adresse maintenant, je me retourne vers les jeunes de la MFR de Bernay. Justement, sur les relations que vous pouvez avoir avec les consommateurs, est-ce que vous êtes vous-même consommateur, vous avez des amis de la famille qui sont consommateurs, qui ne sont pas forcément paysans. Quel rapport vous pouvez avoir avec les urbains, les gens qui consomment et d'ailleurs l'agriculture a souvent été décriée, hein, voilà, quel rapport vous avez avec ça? Alors, Vincent. C'est une réponse. On traduit tout de suite. Anthony.
Ouais, aujourd'hui, les consommateurs veulent de la traçabilité. Ça, on l'a bien vu, surtout avec la polémique de la viande de cheval aujourd'hui. Je pense qu'avec cette polémique-là, ça va bouger dans les années à venir. Mais en fin de compte, les agriculteurs, c'est ce qu'ils veulent, la traçabilité, pour qu'on mange français, pour voir d'où ça vient, si c'est biologique, si c'est raisonné. Aujourd'hui, en agriculture, on est obligé d'être raisonné. Parce qu'en fin de compte, on a remarqué qu'on fait autant de rendement qu'avant et on arrive à mettre moins de pesticides, moins d'engrais. Donc ça coûte moins cher à produire. Donc on fait une meilleure marge. Donc obligatoirement, les agriculteurs y baissent. Donc l'alimentation est de plus en plus meilleure, de meilleure qualité. Mais par contre, c'est sûr que quand ça vient d'un autre pays, on n'a pas forcément de traçabilité. Est-ce qu'ils ont la même mentalité que nous? On ne sait pas forcément. C'est pour ça que les Français réclament de la traçabilité. Et que maintenant, pour la viande, par exemple, ils vont plus chez des bouchers où ils peuvent avoir une traçabilité. Ils savent d'où ça vient.
Et ce que disait Diana, tu peux traduire, Diana?
Sí. Oui, oui. Están hablando sobre todo de la... a nivel de los productores, que ellos creen, los propios productores franceses creen que es importante la trazabilidad y que sobre todo después de las polémicas que ha habido con la carne, con toda la producción de carne, el caballo, creo que de aquí a unos años va a haber una mucha más puesta atención en esta trazabilidad, pero también es verdad que se está haciendo porque haya menos pesticida, menos en los cultivos, pero también la producción es más cara, es decir, la producción de calidad también es más cara, entonces es complicado, es decir, por una parte se quiere producción de calidad, pero también cuesta más.
Voilà, pour rebondir, on peut dire que la traçabilité finalement et le fait que ça soit, on sache d'où vient le produit, eh bien c'est plutôt bénéfique en fait pour le producteur, hein, c'est ce qu'on peut dire. Mais par contre, Anthony, je voudrais te faire réagir sur justement l'argument aussi de Diana tout à l'heure, ou de Sonia, ou de Vélène, c'est le problème de la crise en ce moment. Parce que tout ça évidemment coûte cher aussi, toute cette traçabilité, tous ces produits raisonnés, bio, évidemment... coûte plus cher, le coût de revient est plus important. Par rapport à la crise, comment tu vois ça? Est-ce que ça ne va pas porter un coup justement aux produits, aux productions respectueuses?
C'est sûr que plus on amène de traçabilité, plus le produit coûte cher. Oui, aujourd'hui, il y a deux Français. Il y a un Français qui veut un produit peu cher et un produit qui de qualité. Après, je pense qu'il y aura toujours ces deux parties-là. Il y aura toujours des personnes à faire des produits un petit peu de moins bonne qualité et des personnes de qualité plus haute. Je pense que c'est dans tous les pays pareil, mais il n'y a pas grand-chose à y faire. Le truc à faire, c'est combler les personnes qui veulent un produit de qualité et après, pour les autres personnes qui veulent une moins bonne qualité de produit, ils achètent un peu moins cher sans traçabilité, quoi.
Après, on peut constater aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de ventes directes ou de ventes à la ferme. Donc c'est ce qui permet aux acheteurs de voir la qualité des produits qu'on peut avoir dans notre pays ou dans notre région. Et par rapport à la crise comme il y a eu avec la viande de cheval, toute cette petite structure font que ça s'améliore pour eux.
Et justement, demain vous irez voir ces petits agriculteurs qui se regroupent dans des AMAP, dans des coopératives par exemple, pour produire localement pour la population locale. Vous irez à Segré, vous rencontrerez aussi un responsable national du réseau agriculture durable, Benoît Drouin, qui habite à quelques kilomètres d'ici à Rouen-en-Champagne. Et donc vous allez poursuivre l'aventure ici. aussi dans ce territoire rural. Merci à vous. Donc le temps est terminé, hein, le temps pour cette émission est terminé. Nous arrivons au terme de cette émission qui vous aura, je l'espère, appris beaucoup sur l'agriculture et le développement durable. Je remercie tous ceux qui ont participé, autant à la technique qu'à la préparation et aux participants. Merci à vous. Et je souhaite notamment à nos amis espagnols et basques une excellente poursuite de leur séjour en Sarthe. Et vous allez ce soir au restaurant, je crois, au Légende. C'est un café, hein, café des 24 heures du Mans. Voilà. Merci à tous. À bientôt.
Merci. 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 Merci.